France Musique.
Two Seahorses, signé Moondog Louis Thomas Hardin, compositeur américain disparu en 1999. Le piano tient une place particulière dans son répertoire. Et ça tombe bien, la pianiste Katia Labeck et les trois musiciens qui forment le groupe Triple Sun, David Chalmin, Massimo Pupillo et Raphaël Séligné, lui rendront hommage ce soir au Théâtre du Capitole de Toulouse. C'est à 20h30 et je viens d'aller jeter un œil. Il reste encore quelques places si vous n'avez pas encore de projet. On va s'intéresser à ce qui se passe sur France Musique ce soir, évidemment, pour fêter son 15e anniversaire. L'ensemble Vox Luminis, dirigé par Lionel Meunier, donnait en concert IFT de Carissimi et le Stabat Mater de Domenico Scarlatti. C'était le 26 mars dernier à l'Oratoire du Louvre à Paris. Clément Rochefort nous proposera une séance de rattrapage ce soir à 20h sur France Musique, donc, avec la diffusion de ce concert dont voici un avant-goût. Un extrait de Yefté de Giacomo Carissimi, interprété ici par Lionel Meunier, Vox Luminis en bis de ce concert donné en mars dernier, donc à l'Opératoire du Louvre à Paris, à réécouter dans son intégralité. Ce sera ce soir à 20h sur France Musique.
Thank you.
Introduction et tarentelle, Pablo de Sarrazat pour la composition, et puis ici les interprètes Maxime Wengerhoff et Ian Brown à 8h et presque 29 minutes sur France Musique.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Bonjour Francesco Tristano.
Bonjour
Saskia. Bienvenue dans Musique Matin.
Merci.
Vous êtes né en 1981 au Luxembourg, vous êtes pianiste, compositeur. On va découvrir ensemble votre nouvel album, bien évidemment ce matin, Tokyo Stories. Vous n'arrêtez pas de bouger, hein. Je crois que vous avez atterri hier soir à minuit, vous repartez dans une heure, une vie.
Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour la matinale?
Mais on est bien de France Musique, hein, voilà, précisons-le tout de même. L'album Tokyo Stories vient donc de paraître sous le label Sony, une plongée musicale. Eh bien, au cœur de Tokyo, que vous allez nous raconter ce matin, Francesco Tristano, un pays qui vous passionne depuis tout petit ou c'est plus récent?
Ça fait une vingtaine d'années, donc pas tout petit. Je pense que la première fois, j'avais 19 ans, mon premier voyage, j'y suis resté un mois. Et ça m'a donné une bonne claque, pour ainsi dire, et je suis retourné...
À quel niveau?
Disons que Tokyo est un peu le summum du concept de la ville, je trouve. C'est un peu la jungle urbaine. J'habitais à New York à l'époque et je trouvais que New York c'était vraiment une blague en fait à côté de
à
Tokyo.
Ce
ah oui. Mais il faut y aller pour s'en rendre compte. Après il y a tout un système de société qui va avec, qui est exotique parce qu'on connaît pas. Mais donc j'ai développé des affinités au cours des dernières années suite à une quarantaine de voyages au Japon.
Quand même.
Et j'attendais avec impatience le moment d'enregistrer à Tokyo. J'avais enregistré à Kyoto un album à l'époque Long Walk avec Dubac, Buxtehude, etc. Et là, j'y allais en octobre dernier pour un concert et je me suis organisé pour louer un studio sur place. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir aussi quelques amis musiciens japonais. Et on a passé quelques jours en studio inoubliables.
L'ambiance est différente que lorsque vous enregistrez ailleurs?
Oui, je pense que tous les studios déjà sont différents, mais là il s'agissait d'un studio de très très haute gamme. Je pense que j'ai jamais travaillé dans des conditions comme ça. Et puis avec le savoir-faire japonais, mais tout de même j'ai emmené mon ingé son là-bas qui est français, qui est François Bourin, qui a fait un magnifique travail de prise de son et de mixage. Et c'était intéressant de voir aussi la façon de collaborer avec les locaux, parce que donc on louait le studio et on avait des assistants qui était à nos côtés.
Il y a des esthétiques différentes justement dans l'enregistrement, dans la captation.
Oui, déjà il y avait les gens de Sony sur place, donc Sony Classical, qui à un moment donné m'ont dit mais on a du mal à s'imaginer que ça va sortir sur Sony Classical ton album là, parce qu'ils entendaient toutes les prises, évidemment toutes les prises, il faut faire le triage, il faut faire le montage. Je pense qu'ils étaient flattés du fait que j'avais des invités japonais, que je voulais en faire quelque chose de japonais en fait.
Une immersion.
Voilà, donc la plupart des compositions sont nées là-bas. Avec quelques exceptions, mais j'essayais vraiment de capter ce moment précis, comme vous disiez, une immersion dans la ville. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour enregistrer du field recording, qui a une place assez importante sur l'album.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est les enregistrements de chant, c'est-à-dire on se balade dans la ville avec un micro, on va au resto, on enregistre, on se balade dans la rue, on enregistre, on prend un café en terrasse, on enregistre. Donc, j'ai tout enregistré pendant une semaine. Et ces enregistrements sont très présents sur l'album. Et c'est la première fois que je travaille avec ce genre de fichier de son. Quoi.
De pratique, et, oui. Bien, on va se plonger dans l'ambiance avec un premier extrait de cet album Tokyo Stories. C'est Hôtel Meguro que j'ai choisi de vous faire écouter. Il est 8h32.
Thank you.
Hôtel Meguro, un premier extrait de cet album Tokyo Stories de notre invité Francesco Tristano, avec nous ce matin dans Musique Matin. Évidemment, ici un premier extrait, un morceau assez écrit, on entend presque des résonances de piano préparées ici.
Oui, bon, je travaille beaucoup avec... En général, je ne prépare pas le piano, c'est dans la mesure où je mets pas d'objet dans le piano, mais j'étouffe pas mal les cordes, je travaille avec les pincements, pour chercher des résonances, des harmoniques un peu différentes. Donc il y a ça, effectivement.
On l'entend, effectivement. Alors, 16 pièces originales pour piano et électronique, vous nous en parliez il y a quelques minutes, Francesco Tristano. Une sorte de fresque sonore aussi, on peut vraiment écouter les morceaux défiler l'un après l'autre en une seule pièce, en quelque sorte. C'est quoi ? C'est une explication de Tokyo ? C'est autre chose ?
Plus qu'une explication, c'est mon expérience personnelle, parce que chaque morceau a un souvenir très précis, un endroit très précis. D'ailleurs, la plupart des morceaux sont nommés géographiquement d'après un quartier ou un endroit à Tokyo. Et donc c'est un peu mon soundtrack, ma bande son de la ville. Mais c'est la bande son d'un film qui n'existe pas. Enfin qui existe maintenant, mais il est venu plus tard.
Il existe pour vous.
Voilà, il existe dans ma tête de toute façon, mais si je peux le partager avec le public, tant mieux. Mais surtout pour le concert, donc le show, le live de Tokyo Stories, on a travaillé avec une équipe de graphistes et d'architectes qui ont créé à partir de photos de mon ami japonais photographe Ryuya Amao, qui a fait toutes les photos de l'album, qui me suit depuis quelques années. On a fait un show visuel, c'est-à-dire on a créé des films. On a créé 16 films, chaque morceau a son propre clip qui défile. Donc je joue, finalement j'ai réalisé mon film.
Et des films et des images en noir et blanc. Voilà. Tokyo, c'est une ville qui se vit en noir et blanc ?
Absolument pas, c'est une ville qui se vit en néon. Il y a d'ailleurs un morceau qui s'appelle Neon City, mais le photographe en question, Ryuya, faut savoir que je l'ai rencontré dans un contexte qui était un peu différent, dans une boîte underground à Tokyo, où on m'a présenté un photographe, on m'a dit est-ce qu'il peut faire des photos pendant que tu joues. Alors j'ai dit oui, bien sûr. C'était noir, il y avait zéro lumière, donc je dis ouais, enfin oui,
pourquoi
fais ce qu'il veut, pourquoi pas. Et je me suis dit il va faire des photos, mais on va rien voir parce que c'était vraiment c'était un black box. Et j'ai vu les photos qu'il a fait et j'ai halluciné. Je me suis dit ce type domine la lumière. Et donc, il travaille uniquement en monochrome, toujours en contraste élevé. Et c'est un peu l'esthétique qui m'a accompagné et qui a accompagné surtout l'enregistrement de l'album. Et c'est ce qu'on retrouve dans le show visuel aussi.
Francesco Tristano, hein, vous avez déjà enregistré d'autres disques avant ces Tokyo Stories, évidemment. Bach, Frescobaldi, Haydn, Ravel, Berio, Cage, Stravinsky, d'autres de vos œuvres aussi. Jeter des ponts finalement entre ces différents styles, vous avez souhaité le faire aussi sur ce disque-ci. Est-ce qu'on peut trouver trace de votre pratique de la musique classique dans l'écriture, j'entends?
Oui, alors déjà il y a un morceau qui s'appelle Electric Mirror qui j'avais fait à l'époque une résidence à l'abbaye de Royaumont. Et Sylvie Brély m'avait fait découvrir la musique de Rameau, de Jean-Philippe Rameau, que j'ai donc travaillé, que j'ai en partie retranscrite. Et donc là, c'est un reste de cette résidence que j'ai faite il y a, je pense, 4 ou 5 ans. Ce morceau qui est vaguement inspiré de l'ouverture de Castor et Pollux. Et c'est ce qu'on... Donc j'ai travaillé ce morceau pendant quelques années, je l'ai joué en plusieurs versions, et finalement on a la version enregistrée sur l'album.
À découvrir donc sur ce disque Tokyo Stories. Cela dit, c'est un autre titre que nous allons entendre à 8h40, et vous avez faim, Francesco Tristano, on entend ici. On va prendre un petit café, puis on va écouter justement Café Shinjuku. Mm-hmm. Japonais invité sur ce disque, Francesco Tristano à vos côtés ici. Michel Portal pour ce titre Café Shinjuku, un musicien lui aussi, comment dire, très influencé ou très inspiré par ce pays, par le Japon ou par cette ville Tokyo.
À voir, faudrait lui poser la question.
Vous ne lui avez pas posé la question?
Non, parce que là, en l'occurrence, ce titre a été enregistré à Paris. On a donc on a rajouté une petite session parce qu'on n'avait pas assez de temps pour enregistrer tout l'album. J'ai collaboré avec Michel une première fois il y a 5-6 ans. On a refait un concert et j'avais envie d'enregistrer avec lui. Je voulais garder ce moment, graver ce moment. Et j'avais ce morceau, cette suite d'accords qui date effectivement d'un voyage au Japon. Et je lui ai demandé s'il pouvait s'imaginer de faire quelque chose avec cette suite d'accords qu'on a changé finalement, qu'on a revu ensemble. Et donc le field recording qui est en fond d'écran pour dire comme ça, c'est effectivement un café à Shinjuku, donc un quartier à Tokyo. Alors le côté jazzy est très présent à Tokyo, plusieurs bars, des cafés, on entend beaucoup de jazz. C'est un peu un voyage dans le passé, bizarrement. Je ne crois pas qu'on écoute beaucoup de jazz dans les cafés européens ou américains même, mais au Japon, la musique de bar et de café, c'est le jazz. Et donc je voulais faire une petite allusion à ça. Donc on a un côté un petit peu libre jazz.
Justement, parlons-en. Comment est-ce que le répertoire que vous interprétez est accueilli quand vous produisez au Japon?
Alors j'ai un public japonais, c'est un des pays où je joue le plus souvent finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que les mondes sont encore très très séparés au Japon. Le monde institutionnel classique, souvent subventionné d'ailleurs comme ici, le monde underground, le monde jazzy, c'est vraiment des mondes qui ne se croisent pas vraiment.
Des publics différents.
Alors le public, pas forcément. Enfin dans mon cas. Je propose déjà depuis des années des concerts qui sont pas très clairs, qu'on peut pas vraiment définir.
Où les frontières sont floues.
Voilà. Bon, en même temps, les frontières, on ne les voit que quand on a envie de les voir. Donc, et je trouvais justement que le public japonais avait une faim et un enthousiasme spécial pour ce genre de format qui ne connaissent peut-être pas encore.
Est-ce que l'intronisation d'un nouvel empereur, Naruhito, c'était le 1er mai dernier, empereur qui s'avère être altiste, est une bonne chose ou promet de nouveaux projets ou de nouveaux développements en termes de politique culturelle?
Reste à voir, hein. Moi, je pense que j'ai pas trop envie d'en parler, mais c'est en tout cas les Japonais le vivent intensément, et ça me surprend en fait. Je me demande comment en 2019 une histoire pareille peut pas encore générer un engouement, un enthousiasme.
L'intronisation dans l'empereur, vous voulez dire?
Oui, je trouve ça complètement anachronique. Donc c'est intéressant, mais ça fait partie justement de cette histoire très très particulière qu'a cette
traditionnelle.
Oui, bien sûr. Traditionnelle, il y a aussi le fait qu'il s'agit donc d'une île, hein, d'un pays qui était très longtemps isolé. Donc il y a une culture très très particulière qui sont assez protectionnistes de leur propre culture
et de leur musique aussi.
Et de leur musique aussi. Mais bon, le côté culturel, c'est magnifique parce que c'est comme ça justement qu'ils ont pu développer aussi, je pense, des formes d'art très très concises comme le théâtre no, le théâtre kabuki, qui sont vraiment c'est la quintessence du japonisme, enfin du Japon. Après voilà, l'histoire militaire ou l'histoire même des shoguns, c'est quelque chose, je pense qu'à un moment donné il va falloir tourner la page. Faut aussi penser un petit peu au futur, au progrès. Donc je pense qu'il y a, c'est intéressant en tout cas d'observer un peu comment change le zeitgeist ces temps-ci.
Effectivement. Merci beaucoup Francesco Tristano. Un alliage entre le Luxembourg, la France, le Japon sur ce disque Tokyo Stories qui paraît sous le label Sony, à découvrir aussi en concert ou pour vous voir sur scène. Francesco Tristano, il faudra patienter jusqu'au 15 juin. Vous nous donnez rendez-vous à Angers pour la fête du vaisseau Argonaut. Qu'est-ce que ça peut dire?
Je ne connais pas. C'est une première édition d'un nouveau festival qui s'avère, je pense, très intéressant, car il y a musique et manger aussi, gastronomie. Donc moi déjà, pour moi c'est bon. Alors je sais pas s'ils vont prévoir un peu de sushi ou du ramen.
Je me renseignerai. Le 25 juillet, ce sera au Festival international de piano de la Roque d'Antero, au théâtre Sylvain de Marseille, et puis à la Scala à Paris, ce sera le 28 novembre prochain. On vous en reparlera, chers auditeurs. Et puis si vous souhaitez réécouter aussi cette nuit spéciale qui vous était consacrée, Francesco Tristano, c'était le 6 août dernier sur France Musique. On mettra le lien sur la page de Musique Matin, bien sûr. Merci Francesco Tristano.
Merci à vous.
Et bonne journée, à très bientôt. Kusakabe-san, extrait de ce nouveau disque de celui qui était notre invité ce matin, Francesco Tristano. Il est 8h50. Et c'est l'heure d'accueillir Julie Depardieu, comme chaque mardi. Bonjour ma chère Julie.
Bonjour Saskia, chers auditeurs. Quel est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un compositeur? Le temps. Par rapport à Berlioz, contraint de vivre de ses critiques musicales, ou Chopin, obligé de donner des leçons, Mahler, ne composant que pendant les vacances, et Massenet soumis lui aussi à l'enseignement, Tchaïkovski a bénéficié d'une liberté enviable. À partir de 1870, il se consacre exclusivement à la composition grâce au mécénat d'une admiratrice, Nadia von Meck, qui lui donne environ 6000 roubles par an. Plus des cadeaux ponctuels comme l'hébergement dans l'une ou l'autre de ses résidences lorsqu'il n'y séjourne pas. Oui, c'est la condition, ils ne doivent pas se croiser ou se rencontrer. Leur relation sera seulement épistolaire. Tchaïkovski et sa bienfaitrice s'échangent plus de 1200 lettres et le compositeur partage avec Madame von Meck ses nombreux états d'âme. Et ça dure pendant près de 14 ans. Je ne peux exprimer ce que je ressens lorsque j'écoute vos compositions. Je suis prête à vous livrer mon âme. Vous devenez comme un dieu pour moi, écrit Madame von Meck à Tchaïkovski en 1876. Votre musique rend ma vie plus facile et plus agréable. Je l'entends littéralement, croyez-moi, je vous en supplie. Tout ce qui est admirable dans Mendelssohn, Schumann, Glinka, vous l'avez aussi. Vous y ajoutez vos propres qualités, uniques, originales, qui vous distinguent tant des autres talents qui ont existé jusqu'à maintenant qu'il est impossible même de vous comparer à qui que ce soit. Après vous, personne ne pourra rien apporter de nouveau à la musique russe. Vous avez concilié dans la vôtre tous les aspects de la musique savante et du folklore. Des imitateurs vous suivront peut-être, des réformateurs, non. Tchaïkovski répond à sa mécène. Quelles âmes bonnes, merveilleuses vivent dans ce monde. En rencontrant des personnes telles que vous, sur la route épineuse de la vie, on s'assure que l'humanité n'est pas aussi dure ni aussi égoïste que les pessimistes l'affirment. Il existe des exceptions admirables, admirables dans le plein sens de ce terme. Si une personne, comme vous, paraît entre 1 million d'autres, cela suffit pour qu'on ne désespère plus des hommes. Les plus heureux moments de mon existence sont ceux où je vois que ma musique pénètre dans le cœur de ceux que j'aime et dont la sympathie m'est plus précieuse que la renommée. Est-il nécessaire de vous dire que je vous aime de tout mon cœur ? Jamais encore je n'avais rencontré une âme en si étroite communion avec la mienne, ou qui répondit avec une pareille sensibilité à toutes mes pensées, à tous les battements de mon cœur. Votre amitié m'est devenue aussi indispensable que l'air. Avant de vous connaître, je ne savais pas qu'il existait des êtres possédant une âme si tendre et si noble. Tchaïkovski toujours, à Madame von Meck. Lorsque je compose, je n'ai jamais qu'une idée dans l'esprit. Vous entendrez et vous goûterez ce que je suis en train d'écrire. Et cela compense à l'avance toute l'incompréhension, toutes les opinions injustes et parfois hostiles que je suis condamnée à entendre de la foule, et pas uniquement d'elle, mais aussi de mes prétendus amis. C'est à la découverte de son penchant homosexuel qui aurait décidé la dame à mettre fin à leur étrange relation en 1890. Tchaïkovski a dédié sa 4e symphonie à Nadia von Meck.
Merci beaucoup Julie pour cette chronique, pour cette lecture. Tchaïkovski, qui nous allons rejoindre d'ailleurs 9h pour la suite. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr, bien sûr. On la retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Julie, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine,
bien évidemment.
Thank you.
Le scherzo de ce premier quatuor de Tchaïkovski par le quatuor Novus, de quoi accueillir en beauté Émilie Minera et Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Saskia. Est-ce que vous connaissez bien la musique baroque irlandaise?
Un petit peu moins.
Ben, c'est un peu le cas de tout le monde, donc on va essayer de réparer ce matin nos lacunes, figurez-vous, avec un très beau disque de l'ensemble baroque irlandais.
Eh bien, je me réjouis d'entendre ça et de découvrir ça avec vous. Ce sera dans l'émission En Piste d'ici quelques minutes. Merci à Yacine Bouzard, Pauline Boisaubert, Antoine Baglin, Max Dezolme, Cindy Le Grumelec et Antoine Giroux. Et merci à vous d'avoir choisi Musique Matin pour ouvrir l'œil. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.